Nous allons maintenant continuer notre méditation sur l'espérance. Remarquez bien qu'on ne quitte pas notre méditation sur l'espérance. Mais je vois que c'est bien, vous avez pris chacun un truc sur Saint-Joseph. C'est bien, j'en ai amené 40, ce n'est plus un seul. Tant mieux, c'est très beau. Saint-Joseph, on l'aime, mais il faut savoir, notre papa, nous l'aimons, a priori on l'aime. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans l'histoire de l'Église, il n'y a rien sur Saint-Joseph. Or, on ne peut aimer quelqu'un spirituellement que quand on peut le contempler. Et on ne peut contempler quelqu'un que quand on le connaît. Et c'est pour ça que c'est important. Et je comprends très bien qu'on mette notre nez dans ce que l'Écriture dit sur Saint-Joseph, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin. Et c'est très grand. C'est très grand. Le principe de Saint-Joseph est le suivant, je vous le dis tout de suite, puisque nous sommes à la deuxième conférence sur 19, c'est que Saint-Joseph, c'est l'espérance. Hein. C'est pour ça que je veux parler de Saint-Joseph tout le temps. Parce que Marie, vous voyez, Jésus, c'est la lumière, c'est le Verbe. C'est la lumière née de la lumière. C'est quand on fait un acte de foi, on se colle à Jésus. On rentre en Jésus, on pénètre en lui, et on rentre dans le cœur de Jésus. Et à l'intérieur du cœur de Jésus, il y a cette fournaise ardente de lumière, ce rayonnement, cette source de rayonnement. Et au centre de cette source de rayonnement, je trouve la lumière immaculée, surnaturelle, infiniment surabondante, qui illumine d'une manière tellement forte toutes choses qu'elles existent. Et au centre, précisément de cette source, il y a le Verbe de Dieu. Et je m'engloutis alors délicieusement dans le Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu crée toutes choses à travers moi. Je viens de faire un acte de foi. Vous voyez ? Les sept étapes de l'acte de foi que je viens de vous faire, d'après saint Augustin. La foi, c'est Jésus. C'est le Fils. C'est la lumière. L'acte de foi fait que je recommence, parce que je vois, vous avez l'air ahuri, alors je recommence. C'est important de comprendre les sept ascensions de l'acte en plénitude de la foi. Parce que les actes de la vie théologale sont des actes qui font que mon baptême respire à plein poumon et je sors du repli sur moi-même. La plus grave, la plus difficile, le plus grand obstacle à l'espérance, c'est le repli sur soi. Et le repli sur soi se guérit par des grandes respirations d'air frais. Même psychologiquement, c'est comme ça. Vous vous sentez repli sur vous. Vous sortez dehors et vous hurlez dans la nature. Psychologiquement, c'est comme ça. Mais spirituellement aussi, la grande respiration d'air frais, du point de vue de la foi, c'est de rentrer dans Jésus crucifié. Ça nous libère de toutes les erreurs. Comment faire un faux acte de foi? Un acte de foi, c'est-à-dire on fait quelquefois des actes de foi vis-à-vis de Dieu qui sont des péchés. C'est fou, hein, comme dit saint Thomas d'Aquin. Un acte de foi informe. Le même acte de foi que ceux que font les damnés éternellement en enfer. Ils ont la foi tout le temps. Mais c'est une foi sans charité, sans amour, sans union. C'est important. Alors du coup, c'est une foi qui condamne. C'est une foi qui est mal à l'aise à côté de la foi des autres. C'est une foi qui juge. C'est une foi qui accuse le prochain. C'est une foi luciférienne. L'accusateur de nos frères. À cause du désir de Dieu Notre foi ne condamne plus personne. Ça, c'est le critère. Critère très beau, saint Thomas d'Aquin. Les deux saintes Thérèse d'Enfant Jésus. Ça, c'est là où les deux se rejoignent. Deux docteurs. Ça, c'est la médecine, ça. Et la foi, donc, c'est un amour de toute notre perception de Dieu. Alors, donc, j'adhère, je me colle à Jésus, je recommence les steps. Comment est-ce qu'on fait un acte de foi? C'est important, ça. J'adhère à Jésus, parce que Jésus, c'est en lui que Dieu est. Si je rentre en lui, Dieu va se révéler entièrement à moi. Si Dieu envoie son Fils, c'est pour que je puisse le voir. Mais je ne peux le voir qu'en rentrant à l'intérieur de Jésus. Donc je me colle à Jésus, colle scotch, adhésion. Je suis une espèce de carreau, de vitre, de miroir, image et ressemblance de Dieu, et je mets beau scotch adhésif. C'est Jésus. Je me colle à Jésus. C'est fou, ça c'est magnifique. Je me colle à Jésus. Puis je rentre en lui. J'adhère à Jésus d'abord, puis ensuite je pénètre en lui. Je pénètre en lui par toutes les ouvertures de son corps. Je rentre à l'intérieur, de l'intérieur de son corps ressuscité. Et là, je trouve son cœur. Puis je pénètre dans la peau du cœur, troisièmement. Dans cette peau du cœur, je découvre les torrents d'amour. Ce buisson ardent. Qui brûle. Qui illumine tout, vous voyez. Et où il y a du divin dans le cœur de Jésus. Et je rentre dedans et je vois qu'il y a une source, quatrièmement, il y a une source à cette espèce d'effervescence du buisson ardent qui ne s'éteint jamais dans mon cœur. Et donc je rentre là et je touche cette source de grâce, cette source de lumière, cette source de purification, cette source d'innocence, cette source de victoire. Et dans cette source de victoire, c'est la lumière, c'est cette lumière dont il dit « Je suis la lumière du monde » qui est au centre de notre univers et au centre de Dieu lui-même. Et cette lumière par qui tout ce qui existe, existe. Et donc quand je m'engloutis dans cette lumière, à travers moi, cette lumière est en train de créer tout ce qui existe. Et du coup, quand je suis présent à tout ce qui existe dans cette lumière, je découvre la personne du Créateur et je découvre que c'est Dieu qui soutient cette puissance créatrice et je découvre le Verbe de Dieu. Et dans le Verbe de Dieu, à ce moment-là, je laisse au Verbe de Dieu prendre possession de toutes les cellules de mon corps, de toutes les parties potentielles de mon esprit, de tout mon vécu, qu'il n'y ait plus rien de moi, et qu'il n'y ait plus Dieu, le Fils, il est dans le sein du Père. Et je regarde, parce que le Verbe de Dieu regarde, le Verbe de Dieu regarde le Père, et il le voit, et moi aussi je le vois. Voilà les têtes. J'ai mis 5 minutes pour l'expliquer, mais il faut 3 secondes pour faire un acte de foi. C'est fusé du Saint-Esprit, il n'y a plus que Jésus. Et Jésus dans sa personne, c'est Dieu. L'acte de foi atteint Dieu lui-même, directement, et pas in obliquo, comme dit saint Thomas. C'est pas in obliquo, c'est indirecto. Indirecto. C'est formidable quand on atteint quelqu'un indirecto. C'est. In obliquo, c'est toujours un peu... C'est pas chouette. Indirecto, c'est super. Et dès qu'on a, vous comprenez bien, qu'on fait un acte de foi, si on aime la doctrine, par exemple, si on fait un acte de foi, c'est fini, on ne peut plus condamner personne. C'est sûr, ça. Jésus a dit, je ne Ça, vous savez, moi je me rappelle que Marthe, il tenait énormément à ça. Enfin, c'est-à-dire Jésus, quoi, il tient énormément. Aucun jugement, aucun murmure. Sinon, ça veut dire qu'on est en dehors de l'Église. On est en dehors de la foi. C'est la foi qui fait rentrer dans l'Église. Hein. C'est la foi qui justifie. Et c'est une foi, pas la foi luciférienne, pas la foi de l'enfer, la foi remplie d'amour. L'amour du Fils. L'acte de charité. L'acte de charité. Comment est-ce qu'on fait un acte de charité? Parce que, enfin, la vie chrétienne consiste à vivre d'une manière de permettre au Christ d'être présent en nous dans la lumière, d'être présent en nous dans le feu de l'amour aussi et de la charité. Et d'être présent en nous aussi dans l'instant éternel de Dieu. Voilà les trois. Alors, vous voyez que le pape a demandé qu'on vive ces trois années avec beaucoup d'amour, amour de la foi, amour de la charité, amour de l'espérance, amour dans la foi, amour dans la charité, amour dans l'espérance. Parce que c'est la joie, si vous préférez, dans la foi, joie dans la charité, joie dans l'espérance. Et joie indestructible dans la foi. Vous savez que l'acte de foi est infaillible du point de vue de la foi. La joie est indestructible dans le point de vue de l'espérance. Et la joie est envahissante à l'infini dans le point de vue de la charité. Alors, comment est-ce qu'on fait un acte de charité? Le Saint-Père a voulu que ces trois années que nous vivons, 97, c'était la foi, j'ai pas plus besoin de vous en parler, vous êtes hyper branchés, pendant un an, on a cavalé, en termes des actes de foi, en vivant Jésus. Là, on est en 1998, année où nous sommes entièrement laissés prendre par l'Esprit Saint pour vivre de la charité, quoi, acte de charité, et on s'est entraîné à faire des actes de charité, surnaturels et théologales, et on va rentrer, là, dans l'année du Papa, l'année du Père, 1999, 9-9. C'est beau ça. Oh, je suis content ça, de voir ça. 19-9-9, ça me plaît. C'est vrai. Et comme on est dans la charité, voyez, on est en train de faire une retraite. En 98, on devrait faire un truc sur la charité. Non, sur l'espérance. Donc, regardons la charité. Le pape a voulu qu'on vive la foi d'abord, puis la charité, et enfin l'espérance. C'est l'espérance qui boucle tout. C'est très fort, hein. Parce que là, ça, c'est le génie du pape, ça. Normalement, si ça avait été un imbécile comme moi, j'aurais dit, bon, première année la foi, deuxième année l'espérance, troisième année la charité. Mais le pape, lui, n'est pas un imbécile. Première année la foi, deuxième année la charité. Là, on est en pleine charité. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'on est là. Comment est-ce qu'on fait un acte de charité? Je vais bien essayer de vous l'expliquer. Puisqu'il faut quand même arriver à voir cette espèce d'extraordinaire complémentarité qu'il y a entre les trois vertus théologales. Et une fois qu'on aura bien assis, on est bien dans la foi et puis dans la charité, alors à ce moment-là, tout s'ouvre. C'est les deux battants de la porte. Ça, c'est la foi et la charité. À ce moment-là, tout s'ouvre et puis l'espérance pourra être pour nous une expérience d'extase surnaturelle que peut-être nous n'avons jamais vécue. De ravissement de toute l'humanité en Dieu. C'est par l'espérance. Il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Donc, comment est-ce qu'on fait un acte de charité? Je vous l'explique un tout petit peu. l'avons entendu mille fois, mais il faut se répéter ces choses-là parce qu'on oublie vite la doctrine infaillible de l'Église, n'est-ce pas ? Le petit catéchisme. Parce que l'acte de foi, tu vois, l'acte de foi, il faut adhérer, il faut rentrer. Oh, je ne savais plus, moi. Acte de charité. La petite formule du catéchisme, c'est « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon esprit, de tout moi-même. Et j'aime tout le monde parce que je t'aime. » Ah, c'est joli ça. Mais comment est-ce qu'on fait ? Ça, c'est la formule. Mais comment on fait ? C'est ça qui est important. Dans l'Ancien Testament, ils savaient qu'il fallait faire la foi, l'espérance, la charité. Très bien, on le savait. Jésus nous montre comment on fait un acte de charité. Surnaturellement. Divinement. De manière incarnée. Je suis le chemin. Alors, l'acte de charité, là, vous savez, je remercie Saint Thomas d'Aquin parce que pour l'acte de foi, je remercie Saint Augustin. Pour l'acte de charité, je remercie Saint Thomas d'Aquin. On a des copains comme ça. Expliquer l'acte des actes de vie théologale, c'est pas commode. Et le faire facilement non plus. Mais une fois qu'on nous a expliqué sans aucune erreur, comment on fait après, c'est facile. Et c'est à ça que sert un docteur de l'Église, Saint Thomas d'Aquin. C'est Saint Thomas d'Aquin qui donne la note initiale, vous savez, le diapason. Le la de l'Église, c'est Saint Thomas d'Aquin. Vous mettez votre nez dans Saint Thomas d'Aquin, vous êtes sûr d'être sur la bonne note. Vous ne chanterez pas faux. Pas discordant. La bonne note. C'est le la de l'Église, Saint Thomas d'Aquin. Normal, c'est lui qui a été le plus génial sur la manière d'enseigner, de résumer comment est-ce qu'on fait un acte de charité surnaturellement parlant. Un acte de charité théologale. Pour faire un acte de charité théologale, je vais essayer de vous le résumer parce que je suis déjà rentré dans la foi, évidemment. J'ai fait un acte de foi, pour commencer, évidemment. Ça, c'est normal. Donc, je fais un acte de foi. J'adhère à Jésus, etc. Et je suis entièrement à l'intérieur, donc, du bon Dieu. Et une fois que je suis là, à l'intérieur de Dieu, que je ne dépends que de Dieu, à ce moment-là, je me laisse absorber à l'intérieur de la très sainte Trinité. Et je vois que Dieu le Fils, je vois que Dieu est heureux. Il est heureux, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est heureux ? Qu'est-ce que mon Dieu est heureux ? Oh là là, qu'est-ce qu'il est heureux ! Il n'en peut plus d'être heureux, le bon Dieu, personnellement, il est heureux, une béatitude, le bonheur qu'il a, nous on est malheureux, nous. Mais lui, qu'est-ce qu'il est heureux, et plus on est malheureux, plus on comprend que Dieu est heureux, c'est ça qui est bien, c'est un désavantage du malheur. C'est un très gros avantage, c'est qu'on peut plus facilement faire des actes de charité quand on est dans le malheur. Oui, pourquoi ? Parce que Dieu, lui, on rentre en Dieu et on regarde à quel point Dieu est heureux. On dit, mais regardez, et c'est vrai, et il y a trois personnes en Dieu. Ah, voilà, oh là là, attention, il y a trois personnes en Dieu. J'atteins, par l'acte de charité, je me laisse absorber dans le sein du Fils de Dieu, du Verbe de Dieu. Mais du coup, absorber, attirer dans les abîmes. l'abîme de son attraction véhémente sur moi. Alors je m'écoule délicieusement, furieusement, à l'intérieur de l'abîme impénétrable de ses attractions invraisemblables sur moi. Et je regarde, du coup, je regarde le bonheur qu'il a, le bonheur du Verbe de Dieu, le bonheur de Dieu, le bonheur de Dieu, le Fils du Dieu vivant, parce que le Fils, la deuxième personne de la très sainte Trinité, c'est Dieu vivant, c'est Dieu lumière, c'est Dieu vivant, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu en plein visage, c'est Dieu directement. Et c'est Dieu qui est entièrement reconnu comme Dieu, accueilli comme Dieu, aimé comme Dieu. C'est ça Dieu le Fils. Quand Dieu est accueilli comme Dieu, reçu comme Dieu, aimé comme Dieu, c'est le Fils. C'est un bonheur d'être un Dieu rempli de lumière et d'amour et reconnu comme tel, accueilli comme tel, vivifié comme tel, une béatitude, un bonheur, une surabondance, il éclate dans la surabondance de toutes les attractions de l'amour et de la substance de Dieu. Et du coup, il disparaît. Et il n'y a plus que le Père. Et je rentre dans la personne du Père, première personne de la très sainte Trinité, et je regarde le bonheur totalement différent de Dieu le Père par rapport au bonheur que je viens de percevoir en Dieu le Fils. Le Père est une autre personne distincte de celle du Fils, et le Père a un bonheur mais qui n'a rien à voir, une béatitude qui n'a rien à voir avec la béatitude du Fils. Et pourtant le Fils, c'est Dieu tout entier à lui tout seul. Ça ne se comprend pas par la foi, ça. Ça se vit dans l'acte de charité. Pour ça, l'intelligence, même illuminée par la foi, ne peut pas saisir ça. C'est uniquement notre cœur qui peut éprouver ce bonheur du Père. Le Dieu, le Père, il est heureux. Pourquoi ? Parce qu'il est le Père. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Qu'est-ce qu'il est heureux, le Père, mon Dieu ? Oh, oh, quand on presse son enfant sur son sein à l'intérieur de lui-même, quand on est source de Dieu, il est source de Dieu, il est source de Dieu, c'est fou, quoi, il donne vie à Dieu. Il est source, et il prête en son sein toute sa divinité, quoi. Et dont il est source, être source, et puis donner la vie, et puis voir cette espèce de toute cette fécondité, Dieu engendré par lui, si intimement uni à lui, reconnaissant sa paternité, qu'il est source. Comme c'est beau, un père qui retrouve son fils tout le temps, infiniment. Ça n'a rien à voir avec le bonheur du fils, vous comprenez ça? C'est une béatitude totalement différente. Alors, ils explosent tous les deux et ils s'unissent comme vous mélangez du jaune ou de la couleur jaune avec de la couleur bleue. Ça donne du vert, les deux disparaissent là, et il n'y a plus que cette espèce de couleur verte extraordinaire de la vie divine. Ils disparaissent tous les deux, ils s'aiment tellement, vous comprenez ? Et il y a une troisième personne qui est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a un bonheur, une béatitude en lui-même totalement différente de celle du Père, qui est une béatitude formidable. Hein. La béatitude du Père, c'est fou, quoi. Oh, le bonheur du Père. Oh mon Dieu. Mais bonheur du Saint-Esprit, comprenez, bonheur du Saint-Esprit, c'est il est amour. Ces deux personnes se rejoignent, sont éperdument amoureuses l'une de l'autre, disparaissent l'une dans l'autre, expirent l'une dans l'autre, se donnent vie l'une à l'autre, meurent d'amour, s'effacent mutuellement, et du coup, il ne reste plus que ça. Il ne reste plus que l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est cet amour infini. Tu ne peux rien rajouter à cette unité et reste du coup du amour qui émane, troisième personne, expatré, filioque procédite, qui procède du Père et du Fils. C'est très important, cette espèce d'unité de ces deux personnes qui produisent, qui disparaissent tellement que... C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont trois et un, parce que quand ils s'aiment, il n'y a plus rien, on a tout. Et en Dieu, c'est comme ça. Et jusqu'à la substance, il n'y a plus ni Père ni Fils. Il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus de Dieu tout entier, c'est-à-dire l'Esprit Saint. C'est fou, quoi. Ah, ça, c'est fou. Il n'y a plus que l'amour, quoi. Et quand nous, on le sait très bien, lequel est le bonheur du Saint-Esprit ? Quand vous n'avez pas l'habitude, quand vous aimez, quand quelqu'un vous aime, voilà, quelqu'un vous aime, alors quelqu'un qui aime, attention, il aimait la patate, hein. Il vous aime, mais alors, attention, hein. Il vous aime trop, quoi. Franchement, c'est... Mais je parle pas de l'amour étouffant, vous voyez, je parle de l'amour entier. Attends, moi, c'est un bon... Vous ne pouvez pas vous venger en l'aimant, en donnant une annonce de réciprocité, pour savoir lequel aimera le plus, vous comprenez ? En disant, moi je vais l'aimer avec le même degré d'intensité. C'est impossible, même trop là. Je suis tellement assommé, il n'y a que l'amour, c'est tout. Moi j'existe plus que de l'amour. Mais d'être amour seulement, vous voyez, il n'y a plus que la fruition, la jouissance, c'est tout. Une incapacité absolue à se réveiller pour donner de l'amour. On n'est que de l'amour reçu, c'est tout. C'est l'Esprit Saint. Parce que c'est le Père et le Fils qui donnent l'amour. Et l'amour reçu, c'est l'Esprit Saint. Filioque expatré, filioque procedit, Spiritus Sanctus. Et être amour infini, avec incapacité absolue de se donner activement dans l'amour, être dans une passivité, une jouissance, pâtir d'un être qu'amour, c'est une béatitude qui n'a rien à voir avec la béatitude des deux autres personnes. Vous le sentez, j'espère. Voilà, quatrième étape de l'acte de charité, ce n'est qu'une étape, hein. On n'est pas encore dans l'acte de charité, on monte en ce moment. Doucement, on se laisse prendre, absorber, tirer dans les abîmes de l'attraction du bonheur. Qu'est-ce qu'ils font ces trois personnes là tout le temps ? C'est fou ce tourbillon de bonheur. Eh bien, figurez-vous que les trois personnes de la très sainte Trinité, j'espère que je vous donne envie de lire saint Thomas d'Aquin, les trois personnes de la très sainte Trinité, eh bien, figurez-vous que leur bonheur, ils le mettent en commun. c'est pas formidable, ça ? À moi, ça me plaît. À moi, je suis content, là, avec ça, parce qu'ils se communiquent leur béatitude. Ils mettent en commun. Saint Thomas d'Aquin dit, l'amour, la communion des personnes, l'amour d'amitié, c'est une mise en commun. Et la seule mise en commun qui est dans la très sainte Trinité, c'est la mise en commun de leur béatitude. Alors, cette mise en commun des béatitudes de Dieu, ça s'appelle la gloire. La victoire de la béatitude sur tout. Il n'y a aucune des personnes qui ne s'en regarde elle-même. Aucune. Le Père ne s'est jamais regarder lui-même. C'est impossible. Le Fils ne s'est jamais regardé lui-même. C'est impossible. Ils communiquent leur béatitude. Et c'est cette communication de béatitude dans laquelle moi, je m'engloutis. Cinquième étape. Je rentre. Cette communication, cette béatitude communiquée des trois personnes l'une dans l'autre qui se donnent chacune leur bêtise, tout à fait quelque chose, etc. Eh bien, voilà ce que, si je fais l'acte de foi, si je rentre dans l'acte d'amour, du fond de mon cœur, cette communication de béatitude se donne, se communique à mon cœur, C'est fou, quoi. Oh. Oh. Ah. Comme dit Jérémie le prophète. Ah. Ah. Dans la Bible, si un jour vous ouvrez au hasard, vous tombez sur ah. Ah. Je voulais une réponse, il y avait quelques gens un peu calmes comme ça, qui prennent la Bible au hasard et puis ils ouvrent, le doigt. Je suis tombé sur ah, ah, ah. Ben voilà. Acte de charité. Et cette communication de béatitude, lorsque j'y suis, ça y est, tout mon cœur est pris par là. Alors à ce moment-là, j'ouvre les yeux et je regarde autour de moi. Et je m'aperçois que je suis dans une... Je suis heureux de voir mon ennemi. Je le vois, oui, comme je suis dans cette béatitude. Hein? Quand mon ennemi me domine, c'est la haine. Et mon ennemi le plus fort, vous le savez, c'est moi-même. Hein? Le plus grand de tous mes ennemis, c'est moi. Jamais oublier ça. Il y a un ordre dans la charité. D'abord, les béatitudes de la très sainte Trinité. Et une fois je suis entièrement pris dans mon cœur pour ça, je me regarde. Et j'ai de la joie d'être avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Et je suis miséricordieux avec moi-même. C'est pas beau ça. Et du coup, j'ai le même regard sur les autres. Je suis joyeux de voir l'autre, je suis dans une paix, dans l'unité avec lui, et je suis miséricordieux. Mais voyez, c'est cet acte de charité s'enracine dans l'amour et devient la charité surnaturelle vis-à-vis de tous ceux qui sont autour de moi. Par exemple, Jésus, c'est mon prochain. Je dois aimer Jésus d'un amour de charité théologale. Alors oui, bien sûr, je dois aimer Jésus d'un amour de charité surnaturelle, théologale. D'abord, faire cet effort d'une violence extrême de tuer mon cœur pour qu'il soit capable d'être attiré juste en dehors de mon cœur, dans le cœur de la très sainte Trinité. Et de voir l'écoulement des béatitudes divines, puis alors après, je suis en paix. Et du coup, je peux être joyeux d'aimer le Christ. Pour aimer le Christ, il faut être absorbé dans la très sainte Trinité, cette communication de béatitude, et de là, je redescends vers Jésus. Et du coup, je suis joyeux d'être avec Jésus. Uni pacifiquement, indissolublement, dans l'océan de la sérénité et de l'unité. Et je suis dans sa miséricorde. Et avec les autres, c'est pareil. Avec Jésus, comme avec mon pire ennemi. Hein? Si, par exemple, je suis... Vous voyez, vous avez les sept étapes de l'acte de charité. L'acte de charité, ce qui est important de retenir dans l'acte de charité, je crois, du point de vue technique, si je puis dire, du point de vue pratique, si vous voulez, de la manière de faire un acte de foi, ce qu'il faut retenir, c'est que la base, le carburant, c'est la béatitude de chacune des trois personnes divines. Alors vous me dites, oui, mais le père Patrick, lui, dans sa grotte, il a le temps de s'imaginer plein de trucs. Moi, j'ai pas le temps, j'ai mon ordinateur, hein, j'ai mes cosmétiques, et j'ai la télé, et tout ça. Et j'ai mes gosses, et j'ai ma femme. J'ai mes malades. Tandis que lui, non. Il faut 3 secondes pour faire un acte de charité. Mais seulement, il faut le faire bien. En personne bonheur de Dieu. Et
bonheur. Et si vous pouvez, en plus, c'est pas.
Quelque chose est tombé, mon père.
Et si vous pouvez, on peut très bien céder, c'est ce que dit saint Paul, par des gémissements ineffables. Par des gémissements ineffables. Je vous affirme que j'ai vu le pape rentrer dans les actes surnaturels de charité après l'action de grâce de l'Eucharistie. C'était des gémissements. Ça faisait trembler toute la chapelle. C'était tonitruant. Ah, l'amour de Dieu. C'est peut-être comme ça. Comme Jérémie. Vous lisez ah, ah, ah. C'est pas ah, ah. Ah, pas du tout. Jérémie. C'est pas ah, ah. Sortir de la nature, vous voyez, cet après-midi ou quand vous avez le temps, puis faites-le, là, quoi. Ah 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 bonheur du Père, bonheur de l'Esprit Saint, de l'amour, vous comprenez? Et en, c'est ça, c'est la mise en commun de l'amitié, la communion, notre communion avec les trois personnes de la Sainte Trinité, qui est le carburant de l'acte de charité. C'est pas l'acte de charité, c'est le carburant. C'est la condition sine qua non. Il faut rentrer d'abord là-dedans. J'y rentre et puis c'est la grâce, hein, c'est pas moi. Hein. Vous comprenez? C'est par la grâce que ça se fait. Mais j'y obéis. Ah, si je suis un petit peu Descartes, Voltaire, machin, bon, marche pas. Et que... Si je pense au passé, si je pense au futur, alors là, je suis pas capable d'être un enfant. Je suis pas capable d'être enfant de Dieu. Je suis pas capable d'avoir du cœur. Si je suis invité, qu'est-ce que je fais? Laisse tomber tout ça, instant présent, le bonheur de Dieu. Alors à ce moment-là, ensuite, tu redescends. Et tu te vois qu'il y a... Tu redescends sur le toboggan de la joie, de la paix, de la miséricorde. Et le toboggan de la paix, de la joie et de la miséricorde, c'est un critère. C'est un critère de discernement qui permet de te voir si c'est vraiment un acte de charité surnaturelle que tu es en train de faire. C'est beau, hein, de voir ça. L'acte de charité est un amour d'amitié avec chacune des trois personnes divines et du coup avec notre prochain. Dans une seule effervescence d'amour. C'est une expérience facile à faire et extrêmement nécessaire. Ah oui, quand on est marié, par exemple, il faut vivre cet amour de charité avec son conjoint. Dans les actes sublimes, de la célébration spontanée. C'est sûr. Avec son enfant, est-ce que vous ne croyez pas qu'on doit avoir de la charité pour son petit enfant? Et le petit enfant qui tombe. Eh oui. Eh bien, voyez, c'est à partir de la foi et de la charité que du coup, on devient libre pour rentrer dans l'espérance.
Et donc, il faut faire des actes de foi. Il faut faire des actes de charité. C'est les deux jambes qui nous permettent de courir dans l'espérance. C'est pour ça que le Saint-Père, il veut qu'on vive d'abord la foi et de la charité. Et du coup, on peut rentrer dans l'espérance. Je rêve. C'était que l'introduction. Vous me laissez encore un quart d'heure ? Oh, ça c'est dur. Donc, petit catéchisme sur l'espérance. La formule du catéchisme est la suivante. Mon Dieu, j'espère, avec une ferme confiance, que vous me donnez, et par les mérites de Jésus-Christ, et si je demeure dans vos commandements, votre grâce en ce monde, et le bonheur éternel dans l'autre. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnez par le mérite de Jésus-Christ et lorsque je demeure dans vos commandements, votre grâce ici-bas et le bonheur éternel de l'autre monde. Dès maintenant, hein. Dès maintenant, vous me donnez votre grâce dans ce monde et le bonheur éternel de l'autre monde, dès maintenant. Vous me le donnez en ce moment. C'est un acte d'espérance. C'est un acte, c'est une... L'acte d'espérance est un pouvoir que Dieu a donné aux pauvres. Pouvoir. Aussi bien que l'acte de foi me permette de vivre totalement de Jésus, autant la charité me permette de vivre totalement Dieu, de la charité, de l'amour du Père. Attends, l'espérance, elle va nous permettre de vivre ce que Joseph a vécu, quoi. Joseph a reçu la grâce de Marie. Il a reçu la grâce en personne. L'espérance, c'est vraiment la vertu principale de Joseph, de mon papa. Il a reçu Marie comme épouse. N'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre Marie. La grâce, la plénitude de grâce. Quand je fais un acte d'espérance, je ne demande pas la grâce, je ne demande pas des grâces. Je demande... c'est un pouvoir que j'ai, hein, attention, c'est un pouvoir infaillible du chrétien. Par le baptême, nous avons ce pouvoir. C'est un pouvoir... Quand vous voulez. Faites l'acte d'espérance et vous recevez toutes les grâces qui sont sorties des mains du Créateur depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin du monde. Toutes les grâces, la plénitude de grâces, toutes les grâces qui sont sorties du Créateur depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, vous les recevez. Mon Dieu, j'espère. Ça veut dire je sais. Et c'est maintenant que ça se fait. Avec une ferme confiance, une confiance éperdue. À travers ma petitesse, ma pauvreté, mon néant, mon rien, jaillissent une nouvelle fois toutes les grâces qui sont sorties de toi, depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde. La plénitude de grâce. C'est beau ça. Autant l'acte de foi fait que je suis entièrement transformé en Jésus, autant l'acte d'espérance fait que je suis entièrement transformé en Marie. Salut Marie, pleine de grâce. Plénitude de grâce. Plénitude de grâce. C'est fou, hein? Et les actes vitiologales sont des actes d'union totale avec Jésus, Marie et Joseph. Et oui. Et avec l'acte d'espérance, c'est vraiment, hein, nous sommes une coupe toute pauvre, comme Saint Joseph, qui reçoit toutes les grâces, mais de manière incarnée. La grâce faite chair, c'est Marie. Dieu fait chair, c'est Jésus. Alors, j'ai une confiance totale qu'en ce moment, vous me donnez toutes ces grâces d'ici-bas et du monde à venir dès maintenant. Voilà. Ça, c'est l'acte d'espérance. L'acte d'espérance est un acte qui est très, 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 très intéressant, très important et qui est, qui va résumer, si je peux dire, qui va clôturer, j'allais dire, toute la vie chrétienne, de manière à ce qu'on puisse rentrer dans l'oraison et que soit l'Esprit Saint, dans les sept dons, qui puisse nous transformer. Foi, charité, espérance. Et une fois qu'on est dans l'espérance, à ce moment-là, c'est l'Esprit Saint qui prend le relais. C'est la porte à l'Esprit Saint, l'espérance. 4, 7. 4, c'est l'ouverture. La porte. Le dalet en hébreu, qui veut dire quatre, ça veut se traduit par pente. C'est une pente ouverte sur l'Esprit Saint. Et effectivement, l'espérance nous fait rentrer dans quelque chose de très très fort. Donc je répète, pour faire un acte d'espérance, il faut ouvrir 1000 fois toutes les portes qui sont en moi. Abraham avait une tente à 1000 portes. Ça veut dire qu'il était ouvert de tous les côtés. Et vous savez, 1000, dans le langage biblique, d'après les pères, ça symbolise l'Immaculée Conception. C'est 10 à la puissance 3. À la puissance de la très sainte Trinité. C'est l'Immaculée Conception. Toutes les grâces sorties de Dieu dans la création sont contenues dans l'Immaculée Conception. Toutes. Eh bien, Abraham avait une tente à 1000 portes. Ça veut dire, c'est ce qui s'est passé en Joseph, son corps était ouvert de tous les côtés et l'Immaculée Conception rayonne dans son unité sponsale avec elle. C'est fou, quoi. C'est l'acte d'espérance, ça. Saint Joseph, c'est l'incarnation de l'acte d'espérance. Vraiment. Et du coup, il n'y a plus que Marie qui vit en elle, c'est la consécration que je vous ai proposée hier, de vivre ça, vous voyez. C'est vraiment une consécration liée à l'acte d'espérance. C'est vraiment une formulation extraordinaire. Et donc j'ouvre toutes mes portes, et je fais comme Joseph, j'ouvre toutes mes portes, 1000 fois, toutes les portes, chacune des cellules de mon corps, j'en ai 700 milliards en tout. Alors, comptez-les bien. Vous ouvrez la première, la seconde, la 700, la milliardième, la 700 milliardième. Toutes les portes de votre cellule, de vos cellules. Toutes les portes de votre vie intérieure. Toutes les portes. Tout est ouvert. Du vent. Patrick, tu dégages. Dors. Il n'y a plus que marche. C'est ce que disait Joseph. Joseph, tu dégages. Dors. Tout est ouvert, grand, pas vide, le plein de toutes les grâces qui sont données. En ce moment, j'ouvre toutes mes portes, 1000 fois, vous voyez, Immaculée Conception, 1000 fois. C'est fou, quoi, hein, de faire ça. On est là, un abîme de réceptivité. Et à ce moment-là, je sais que Dieu, parce qu'il l'a dit. Lorsque je fais ça, fait jaillir dans un instant éternel, de moi, en passant par toutes les pores de ma peau, tout mon cœur, toute mon âme, tout mon esprit, toutes les grâces qu'il a déjà données, il leur donne une nouvelle fois. Seigneur, j'ai une confiance totale alors, en ce moment. La formule que moi personnellement j'obtiens, c'est la formule que je préfère personnellement. Il faut que chacun fasse sa petite formule, mais moi je dis, Seigneur, j'ai une confiance totale qu'en ce moment, tu me donnes toutes tes grâces et la béatitude éternelle est totale. De l'éternité, en ce moment, c'est ça. Hein? Là, il ne faut pas 3 secondes, hein, par neuf espérances. Il faut 1/10 de seconde. Dieu et moi, 1/1000 de seconde. Pour l'acte d'espérance, c'est jour et à un moment donné, allez, toutes les grâces et la béatitude éternelle qui passe par nous. C'est pour ça que je ne le perçois pas. Mais pourtant, je le perçois. Mais c'est important, c'est très important de faire des actes d'espérance. Parce que si on ne fait pas des actes d'espérance, alors à ce moment-là, on contriste le cœur du Père. C'est beau de méditer ça au Gethsémani. La tristesse de Jésus, la tristesse du Papa. C'est une confiance absolue. Alors à ce moment-là, quand on fait des actes d'espérance, quoi devient libre. Dans la tradition et dans la tradition chrétienne, les pères de l'Église, les docteurs, les apôtres et puis les saints ont fini par résumer l'Évangile, la Bible et la Révélation sur le plan de la vie pratique pour le chemin de la vie éternelle, en trois grands conseils. On appelle ça les conseils évangéliques. Les conseils évangéliques sont les trois grands résumés de l'Évangile. Le premier conseil évangélique permet de nous apprendre comment est-ce qu'on fait pour vivre de l'acte de foi, de manière à en faire un état continuel. Comment est-ce qu'on fait pour vivre de l'acte d'espérance, de manière à en faire un état continuel, et de la charité surnaturelle pour en faire un état continuel. Et ça s'appelle les conseils évangéliques. Vous le saviez, ça, je pense. Les conseils évangéliques, il faut connaître les conseils évangéliques, hein, ils donnent la spiritualité de l'espérance, la spiritualité de la lumière, la spiritualité de l'amour. Eh bien, ça s'appelle, c'est pour ça que les gens font des vœux de pauvreté. Ils rentrent dans l'esprit de pauvreté, dans l'esprit de virginité, dans l'esprit d'obéissance. Les trois conseils qui résument tout l'Évangile et qui permettent d'être habituellement dans la liberté spontanée presque de la vie théologale continuelle, c'est l'esprit de virginité pour la foi, l'esprit d'obéissance pour la charité, et l'esprit de pauvreté pour l'espérance. C'est ce que nous verrons dans la troisième communication. Nous regarderons comment l'Esprit Saint a inspiré à l'Église de résumer l'Évangile dans l'esprit de pauvreté. Et comment, non seulement on va pouvoir faire des actes, d'abord il faut faire des actes, hein. C'est évidemment essentiel. Mais pour que ces actes d'espérance, on dirait une ferme en France, maman, c'est tout. Ah, tu as le déluge, ma connaissance, il n'y a plus que Marie. C'est fou, quoi. Et cette béatitude infinie, qui est là, qui passe par moi, qui est là. Tu l'aimes ? Je suis catapulté en Dieu avec ça. Dans un acte d'espérance. Il faut faire des actes d'espérance. Hein. C'est vraiment génial de faire des actes d'espérance. Il faut en faire souvent. Mais, vous comprenez, il y a la cuisine, quelquefois on dort dans la rue et puis il dormait. Alors comment est-ce qu'on fait pour que quand on dort, ça continue On fait un acte d'espérance, ça demande une violence incroyable, ça demande une attention terrible, ça demande une disponibilité folle, ça demande une pauvreté totale. Et on peut pas être tout le temps dans cet état. Parce qu'on est des pauvres types. Alors, du coup, l'Esprit Saint a inventé l'esprit de pauvreté pour que l'acte d'espérance, on l'a fait une fois, ça dure un centième de seconde, et puis quand il retombe, il dure, pour faire durer l'acte d'espérance, on vit de l'esprit de pauvreté.
fais le vœu, dit Seigneur, je fais le vœu de vivre de l'esprit pensé. Et c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Nous verrons tout à l'heure des choses très très élémentaires. Hein. C'est le béaba, vous sentez bien que c'est le béaba quand on est en train de regarder le béaba. C'est vraiment basique, hein, ça. Comment est-ce qu'on fait pour vivre l'esprit de pauvreté? C'est très important. Donc je trouve que c'est très important de commencer par les bases, au moins celles qu'on apprend aux gosses, quoi, 4, 5 ans, 6 ans. Puis après, on essaiera d'expliciter un petit peu plus la modalité particulière que l'Esprit Saint demande à l'Église de vivre pour la parousie, pour l'entrée dans le sixième sceau et la sixième trompette, la sixième coupe de l'Apocalypse, c'est-à-dire pour le grand désir de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Dieu, j'ai une confiance totale qu'en cet instant, tu me donnes toutes tes grâces et la béatitude éternelle du ciel. Marthe qui dit ça, avec sa petite voix géniale, sa petite voix ruisselante, c'est joyeuse, limpide, transparente, c'est enfantine. Rien ne fait plus désespérément reculer l'astucieux serpent que la confiance qui s'alimente dans l'amour de Dieu. C'est joli ça, hein? Rien ne fait plus désespérément notre espérance, désespère le démon. Pourquoi est-ce que le démon est espéré? Parce que nous vivons de l'espérance. C'est fou. Ça, c'est marre de tout cracher, ça. C'est génial. Rien ne fait plus désespérément reculer l'astucieux serpent que la confiance éperdue qui s'alimente dans l'amour au ciel où je demeure à jamais, petit brasier toujours ardent au sein de l'amour infini. Vous voyez l'espérance, je suis en train. Je demeure à jamais, petit brasier, toujours ardent, au sein de l'amour infini, c'est un acte d'espérance, ça. Je continuerai ma belle mission. Et je continue ma belle mission de faire aimer la grâce, l'amour, la vie divine, de semer des vocations surnaturelles. C'est beau, ça. Il me semble que mon désir va toujours grandissant. Jusqu'à la fin du monde. Un désir brûlant de faire descendre sur tous les trésors inépuisables de ma maman immaculée et d'ouvrir par elle à toutes les âmes les trésors divins. Ça, c'est beau, ça. C'est magnifique. Magnifique. Dans l'acte d'espérance, je suis capable de faire rejaillir en moi tous les trésors divins, toutes les grâces divines, toutes les béatitudes, toutes les surélévations de sainteté surnaturelle. Pour que ça communique en ce moment, jusqu'à la fin du monde, à tous ceux qui en ont besoin. C'est beau ça, je le répète. Au ciel où je demeure à jamais, petit brasier toujours ardent au sein de l'amour infini, je continue ma belle mission de faire aimer l'amour, de semer des vocations surnaturelles partout. L'acte d'espérance, vous êtes semence de gloire dans l'acte d'espérance. Un acte d'espérance où vous semez la gloire. Dans les cœurs des petits-enfants, des adultes. C'est fou, quoi. C'est fou. Il me semble que mon désir va toujours grandissant, depuis maintenant jusqu'à la fin du monde, désir brûlant de faire descendre sur tous les trésors inépuisables de ma mère immaculée et d'ouvrir par elle à toutes les âmes les celliers de tous les trésors divins. C'est beau, ça. C'est beau. C'est beau. J'aime. J'aime. Un troisième. Vite, vite. Puis après, j'arrête. J'arrête, oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Ah. Alors, où est-ce que je l'ai mis, hein? Est-ce que je l'ai mis? Ah, ici. Ah, ici, d'accord. Mmh. Écoutez, ça c'est très beau aussi. L'espérance consiste à vivre en ce moment de la plénitude du ciel, de la plénitude de la grâce, de la plénitude de Dieu, dès maintenant, par un acte infaillible, un pouvoir qui nous est donné par le baptême. Je le fais et ça se réalise. Il y a un profond sentiment qui anéantit le péché. De plus en plus, je me laisse faire. Afin que le bon Dieu soit bien libre en mon âme. C'est un acte d'espérance, ça. Espérance de la liberté de Dieu. Je ne laisse plus aucun obstacle en moi pour Dieu, en ce moment. Et je ne peux pas faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à un millième de seconde, je peux. Voilà, c'est sûr. Je me laisse faire afin que le bon Dieu soit bien libre en mon âme. Oui, toujours et de plus en plus le silence et l'abandon pour n'écouter et ne comprendre que lui. Un abandon actif et puissant. Et faire de ma vie de souffrance, de ma vivante immolation, un recueillement dans l'amour. Et aussi dans la sainte allégresse du ciel. C'est bien ça, vous voyez. C'est bien ce que je vous ai dit. C'est un acte d'espérance, ça, qu'elle fait là. Je vous le répète une deuxième fois. Il y a un profond sentiment qui anéantit le péché. C'est l'amour, en lequel de plus en plus je me laisse faire, agir, afin que le bon Dieu soit bien libre, totalement, en mon âme. Oui, toujours, toujours, toujours. Et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, le silence. Et l'abandon. Pour n'écouter et ne comprendre que lui. Et faire de ma vie de souffrance, de ma vivante immolation, fidèle à qui Dieu confia Jésus, l'innocence même. Marie, la Vierge des Vierges, faites que pure, limpide, dégagée de toute souillure. Petit, pauvre, humble d'esprit, brûlant de charité, nous servions Jésus, Marie et l'Esprit Saint dans un amour toujours plus limpide, une humilité toujours plus parfaite et une transparence toujours plus grande. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire.